Retrouver la confiance en soi en chassant les vieux démons. Voilà le programme de notre après-midi. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a manqué de confiance en soi, mais chez certaines personnes, le problème est plus profond. Avec mes invités, nous allons explorer les origines du manque de confiance en soi, émission en partenariat avec la revue Cerveau et Psycho. Et j'attends dès maintenant vos messages, vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Une nouvelle voix pour notre rendez-vous à la une de la science. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour.
Et à la une aujourd'hui, Agnès, le legs de Néandertal dans le système immunitaire des Européens.
Oui, tout à fait Mathieu. Alors nous sommes tous différents dans nos façons de réagir aux agressions de virus ou de bactéries et selon des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS, le lointain cousin Néandertal a transmis aux Européens de quoi renforcer leur système immunitaire.
On voit ça avec vous dans un instant et voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle Tête au Carré réalisée par Céline Hila et qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Retrouver la confiance en soi. Ce sera donc le dossier dans quelques instants de l'émission avec mes invités, le psychiatre Frédéric Fanget qui est en duplex des bureaux de France, de Radio France à Lyon. Bonjour Frédéric Fanget.
Bonjour Mathieu.
Et en studio à mes côtés, Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu.
Frédéric Fanget, est-ce que vraiment on peut améliorer le manque de confiance en soi, voire le guérir?
Tout à fait. Je veux passer ce message aux auditeurs. Ce n'est pas une fatalité. Et je propose une véritable thérapie de la confiance en soi accessible à monsieur et madame tout le monde.
Bon, eh bien, on a hâte de savoir de quoi il s'agit. Sébastien Boller, ce sont souvent nos vieux démons qui paralysent notre confiance, justement.
Ben oui, c'est le gros problème. C'est que notre confiance en soi, notre degré de confiance en soi dépend en grande partie de ce qui nous a été inculqué dans les premières années. L'enfance est capitale à ce niveau-là. À la fois le regard qu'a porté sur nous notre entourage, que ce soit la famille, les professeurs, ce qu'on appelle parfois des micro-traumatismes, des choses qui se passent pas très bien, un regard qui met pas assez en confiance, et puis parfois des échecs sur lesquels on se fait une opinion définitive après. Et c'est ça qu'il s'agit de déconstruire ensuite.
On y revient avec vous bien sûr dans quelques instants et je compte sur vous également pour répondre aux messages des auditeurs franceinter.fr. Donc et le mot-clé, l'attaque. Et à la une de la science aujourd'hui, notre héritage néandertalien.
Le corps humain est une sacrée forteresse.
Qui va là ?
Par exemple, il y a l'élite, les lymphocytes T et B. Ils commandent les troupes lors des maladies.
Neutrophiles en renfort sur le flanc gauche.
Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient.
Voilà, les leucocytes ou les monocytes, ces défenses de base de nos cellules qui ont été scrutées pendant 4 ans chez 200 individus africains et européens pour comprendre comment justement ils répondaient aux agressions bactériennes ou virales dans une étude publiée dans la revue Cell jeudi dernier. Des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS démontrent qu'Africains et Européens ont des systèmes immunitaires génétiquement différents et l'homme de Néandertal n'y est pas étranger. Bonjour Hélène Quach et Louis Quintana, merci.
Bonjour.
Bienvenue à vous Hélène Quach, vous êtes ingénieure de recherche au CNRS à l'Institut Pasteur et Louis Quintana, merci. Vous êtes responsable de l'unité génétique évolutive humaine, donc toujours au CNRS et à l'Institut Pasteur et vous êtes tous les deux auteurs de cette publication. Louis Quintana, merci. Quand un Européen se défend par exemple contre la grippe, il y a une part en lui de Néandertal qui essaye de combattre le virus ?
Exactement. Ouais. Ce qu'on a pu montrer, c'est que la façon dont ceux entre nous qui sont d'origine européenne avons certaines mutations, qu'on a hérité de ce mélange ancien, de ce métissage il y a 40-50 000 ans avec l'homme de Néandertal. Et l'homme de Néandertal nous a transmis ces mutations qui nous permet de réagir d'une façon différente face à l'infection virale par le virus de la grippe.
Ouais. Pourquoi seulement les Européens et justement pas les Africains, puisque ces gènes néandertaliens que nous avons, qui sont estimés à combien? Entre 2 et 4 %, c'est ça?
Exactement.
Seuls les Européens et les Asiatiques en possèdent, pas les Africains. Pour quelle raison?
Elle Parce est simple. Que simplement, Néandertal, il paraît qu'il n'a pas habité en Afrique.
Oui.
Par contre, il y a des évidences qui montreraient, sur la base de la génétique, là, que les hommes, les Africains, auraient aussi une partie de leur génome qui viendrait d'un hominide qui n'a pas été encore découvert.
Oui. Agnès Fèvre.
Alors, à la base de votre étude, quelle était la question de départ? Il y a évidemment quelque chose qui nous paraît évident, c'est qu'on ne réagit pas tous de la même façon aux virus et aux bactéries, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et surtout on ne sait pas quels gènes sont déterminants, c'est ça que vous avez cherché à savoir au départ?
En fait, on a voulu savoir s'il y avait une base génétique à toutes ces différences qu'on observe dans la population en termes de réponse immunitaire innée.
Et d'accord. Donc, le rôle de Néandertal dans tout ça?
En partie, le rôle de Néandertal chez Européens, mais pas seulement Néandertal, mais également d'autres facteurs génétiques liés à la sélection naturelle, par exemple, qui a impacté fortement les populations humaines.
D'accord, parce que donc, chacun est différent face aux attaques, face aux agresseurs.
Chacun est différent. On a également des différences populationnelles qui sont liées à notre histoire démographique et aussi à l'environnement auquel nos ancêtres européens et africains ont été confrontés.
Pourquoi justement, Luis Quintana, merci, avoir choisi de comparer les réponses immunitaires des différentes populations? Alors, européens contre africains?
Oui, ou africains contre européens.
Oui, on peut le mettre dans les deux sens, absolument.
L'idée ici, c'était déjà de comprendre le niveau de variabilité de nos réponses immunitaires, aussi bien entre individus européens, entre individus africains et entre les Européens et les Africains. L'idée ici, c'est essayer de comprendre le pourquoi de ces différences de magnitude, d'amplitude, de force de nos réponses immunitaires qui peut différer entre les deux populations, aussi bien qu'il peut en différer entre vous et moi, tous les deux étant, a priori, d'origine européenne.
Oui, Agnès.
Oui, justement, il y a plusieurs... Déjà, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu concrètement comment cela se traduit? Comment, par exemple, ces populations d'origine soit européenne, soit africaine vont réagir différemment? Vous citez un cas, par exemple, de lupus. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de ces défenses immunitaires face aux agressions?
Oui, disons que ces populations, ce qu'il ne faut pas oublier, que chacun, on s'est adapté tout au long de notre histoire évolutive à l'environnement qu'on a rencontré. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a eu de la sélection naturelle, c'est-à-dire une adaptation génétique à l'environnement pathogénique tout au long de notre histoire pour booster quelque part, pour rendre beaucoup plus réactives nos réponses immunitaires. Mais par exemple, en Europe, avec l'estérilisation des sociétés, avec les vaccins, les antibiotiques et l'hygiène tout en particulier, ça fait qu'on peut avoir certaines maladies auto-immunes, certaines maladies inflammatoires, certaines allergies, d'une façon beaucoup plus accrue qu'en Afrique, c'est-à-dire ce prix à payer pour avoir sélectionné un système immunitaire extrêmement combattant tout au long de notre histoire, mais quand les pathogènes ne sont pas là, d'autres maladies reliées au système immunitaire vont se révéler.
Alors pour prendre l'exemple du lupus dont parlait Agnès tout à l'heure, Hélène Couache, les Africains ne réagissent pas de la même façon que les Européens?
Non, en fait, dans chacune des populations possède des déterminants génétiques et certaines mutations va favoriser ou va prédisposer ou favoriser la résistance à certaines maladies. Et pour le lupus, on a vu que chez les Africains, ils étaient beaucoup plus sensibles au lupus que chez les Européens.
Ouais. Est-ce qu'on est capable d'attribuer certaines maladies directement à nos gènes néandertaliens aujourd'hui ou est-ce que c'est encore très très flou? Parce que là, vous êtes en pleine recherche là-dessus. Mais on a évoqué certaines maladies en particulier.
On peut attribuer certains traits de notre système immunitaire, comme la façon, par exemple, de la façon dont on va répondre à l'infection virale. Oui, ça, on peut le faire. De là à attribuer, on a hérité une mutation de Néandertal qui nous rend plus ou moins dépressifs ou plus ou moins addicts à la cigarette. Il y a des études qui ont fait ça, mais les mécanismes et la vraie physiologie derrière sont bien loin d'être compris.
Sur les addictions, on pourrait trouver des gènes néandertaliens qui sont directement liés à cela?
Il y a une étude génétique il y a environ 4-5 mois qu'ils avaient montré qu'on avait hérité certaines mutations qui nous rend plus ou différemment susceptibles à la dépression et à certaines addictions.
À l'altitude aussi, apparemment, il y a un gène qui prédisposerait une meilleure tolérance à l'altitude.
Mais ça, c'est pas Néandertal. Ça, c'est son cousin Denisova, c'est un autre hominide qui habitait en Sibérie, qui aurait injecté, si je peux le dire ainsi, une mutation qui a permis aux Tibétains de mieux s'adapter aux conditions de vie à notre altitude.
Donc on a un sacré mélange génétique au fond, hein, puisqu'on nous sommes les héritiers de tous ces hominidés là dont vous parlez, Luis Quintana, merci. Hein,
exactement.
Hélène Couache, comment est-ce que vous avez travaillé pour mener ces études exactement? Vous avez scruté des personnes en particulier?
En fait, on a échantillonné 200 donneurs sains, 100 d'origine africaine et 100 d'origine européenne. Et on a collecté leur sang et récupéré donc les monocytes, qui sont un type oscillaire très important dans l'immunité innée, puisqu'elle permet de reconnaître différentes formes de pathogènes, que ce soit bactéries, virales, et qui va permettre de déclencher toute une cascade de réponses immunitaires pour répondre à l'infection. Ouais. Donc nous, on a travaillé sur les monocytes, on les a infectés avec différentes molécules pour mimer des infections bactériennes ou virales. Mmh. Et on a récupéré tous ces échantillons, on a caractérisé les gènes qui étaient exprimés et on les a quantifiés surtout.
Voilà, c'est une véritable enquête policière hein, au sein de nos gènes. Une dernière question, Agnès ?
Ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est qu'on voit que, alors effectivement, il y a cette influence de cet héritage de Néandertal chez les Européens, mais tous les individus que vous observez ont tous évolué aussi grâce à la sélection naturelle et ont convergé vers une évolution similaire dans leur réponse immunitaire.
Oui, et une chose qu'on a trouvée d'assez intéressant, que, en utilisant des trajectoires évolutives, c'est-à-dire des façons de s'adapter complètement indépendantes, notre population d'Africains et d'Européens, on montre qu'avoir une réponse immunitaire un peu réduite, un peu moins active, a été quelque chose de bon pour mieux s'adapter, c'est-à-dire... que la réponse immunitaire, ça paraît un peu contre-intuitive. On dirait qu'il faudrait qu'il soit extrêmement combatif contre les pathogènes, mais ce qu'on montre, c'est qu'il faut trouver un équilibre pour bien reconnaître les pathogènes, bien déclencher une réponse immunitaire pour les éliminer,
ni trop forte ni trop faible.
Parce qu'évidemment, quand elle est trop forte après, elle peut se tourner contre nous-mêmes et nous être à la base des maladies auto-immunes, allergies et inflammations.
Ouais. Ça pourrait servir à quoi alors ces travaux, au fond ? On peut imaginer que pour la médecine, ça puisse être utile ou pas ?
Une de nos idées ultimes, c'est essayer de mettre un brique dans les fondations, on va dire, d'une future médecine personnalisée, c'est-à-dire comment sur la base de notre background génétique mais aussi de notre type de vie, ce qu'on fait, ce qu'on mange, où on vit, pouvoir prédire pourquoi certains individus répondent peu. Et donc, ces individus, peut-être il faudrait leur donner plus de doses de certains vaccins, et où certains individus vont avoir un système immunitaire trop réactif, donc il faudrait les traiter d'une façon différente.
Donc génétique et épigénétique, hein, pour une médecine personnalisée, si on tient compte de tous les critères, hein, à la fois donc, génétiques et environnementaux. Merci beaucoup à tous les deux, Hélène Couache et Luis Quintana, merci. Donc, étude qui a été publiée la semaine dernière. Et Agnès, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, elle s'appelle Lin Li. Elle a 23 semaines seulement. Elle a été extraite du ventre de sa mère pour être opérée d'une tumeur au coccyx. Elle a subi une intervention de 5 heures, dont 20 minutes hors de l'utérus à l'hôpital pour enfants du Texas aux États-Unis, avant d'être replacée dans le ventre de sa mère. 12 semaines plus tard, Lin Li est née pour de bon cette fois. Il a fallu retirer le reste de la tumeur. Aujourd'hui, cette petite fille est en parfaite santé. Faut-il recourir au placebo, ce traitement sans principe actif ? Eh bien oui, si vous souffrez de lombalgie, telle est la conclusion d'une expérience menée par l'Institut supérieur de psychologie appliquée de Lisbonne. Les patients lombalgiques à qui ils ont administré un placebo ont vu leur douleur réduite de 30%, tandis que ceux qui ont reçu un médicament actif n'ont pas senti d'amélioration. L'étude est parue dans la revue spécialisée Pain. Et puis enfin, les mathématiques ne sont peut-être pas vouées à être une matière sexuée. Il est en effet établi que les garçons sont meilleurs que les filles en maths dès la primaire, mais selon des chercheurs de l'Université de New York, ce phénomène troublant est lié notamment au comportement des enseignants. Ils ont tendance à moins bien noter les filles que les garçons, quand ceux-ci ont pourtant des résultats, des compétences et des comportements égaux, c'est-à-dire dans la revue de l'American Educational Research Association. Allez, la confiance en soi, c'est le dossier dans un instant.
Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. We are ready.
Détour par Chicago avec Graham Nash.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Vous avez 18 ans et parfois vous devez vous poser cette question, c'est trop beau pour que ça vienne si vite.
Non, j'ai pas le temps de me la poser.
Et puis vous êtes très équilibrée, et très joyeuse et très sûre de vous.
Je suis sûre de moi parce que je me suis dit qu'à un certain moment ça devenait une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas confiance en vous, vous vous détruisiez vous-même. Et puis l'autodestruction, ça m'intéresse pas tellement parce que si ça démolit la confiance que j'ai entre un metteur en scène et moi, c'est-à-dire le travail qu'on doit faire, c'est pas la peine. Autant croire en soi, même si on n'est que doute, je crois qu'il vaut mieux être raison pour les autres, même si au fond de soi, on garde toujours le doute. Moi, je suis pleine de doutes, mais c'est quand même absurde d'être sur une scène de théâtre et de devoir parler plus fort que les autres, de devoir être plus présent que les autres. Vous avez, vous, à une puissance X à présenter, donc il faut avoir conscience sans trop avoir conscience de soi et projeter soi, même si on a le doute. Il faut avoir le courage de se lancer.
Voilà, très beau document. Isabelle Adjani, vous aviez certainement reconnu sa voix au micro de Jacques Chancel. C'était Radioscopie alors qu'Adjani avait 18 ans et c'était en 1974 hein, pour parler justement de la confiance. Oser se faire confiance, c'est le thème donc de notre émission en partenariat avec la revue Cerveau Psycho qui consacre un dossier à ce sujet dans son dernier numéro. Pour en parler, Frédéric Fanget, vous êtes donc avec nous, psychiatre, psychothérapeute, vous enseignez à Lyon 1 et vous avez publié Oser, thérapie de la confiance en soi, paru chez Odile Jacob en poche et vous êtes en duplex des bureaux de Radio France. Et puis Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. On discute bien sûr avec les auditeurs de ce thème de la confiance en soi sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Sébastien, je vous voyais réagir à la voix d'Isabelle Adjani. 18 ans, quelle maturité quand même hein.
Oui, parce qu'elle est incroyable. Elle a déjà amené le débat encore plus loin que ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'elle elle parle du doute et de la confiance qui vont toujours main dans la main. Le doute n'est pas quelque chose de malsain. Oui. Le doute, au contraire, c'est ce qui fait notre humanité. Et finalement, ce qu'elle mentionne là-dedans, c'est le courage. Et le courage, bah, c'est comment avoir confiance tout en ayant à avoir des doutes. Et c'est peut-être finalement ça une des clés. On pourra peut-être demander à Frédéric Fanget ce qu'il en pense. Mais voilà, il a introduit une subtilité supplémentaire au début de notre débat. Il ne s'agit pas non plus toujours de se dire « j'ai confiance, je suis un bloc de béton ».
Absolument. Frédéric Fanget, il y a ce compagnonnage au fond du doute et de la confiance.
Oui, le doute fait partie de la vie. Vous savez, pour nous, les gens les plus inquiétants sont des gens qui n'ont pas de doute.
Oui.
Peut-être pour vous aussi, d'ailleurs, vous devez en rencontrer. C'est toujours très inquiétant et c'est surtout plombant pour ceux qui sont autour. Donc, les gens qui ont trop confiance en eux, ils plombent ceux qui sont à côté d'eux. Donc, par contre, ils viennent pas consulter parce que, justement, ils doutent pas. Un des intérêts du doute, c'est de se poser des questions sur soi et de pas faire n'importe quoi, de pas prendre des décisions hâtives sans réflexion. Le doute, ça introduit une temporalité qui évite à votre cerveau émotionnel l'impulsivité, une décision rapide, hâtive, le doute va mettre en route votre deuxième cerveau, qui est votre cerveau cortical, qui est celui de la raison et de la réflexion, qui va vous permettre de peser les avantages et les inconvénients d'une action et de passer à l'action.
C'est un peu la pédale de frein, alors on pourrait dire ça comme ça ?
C'est le ralentisseur.
Oui.
C'est le ralentisseur ou le limitateur de vitesse, mais plutôt au niveau temporel. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien ces gens impulsifs qui décident trop vite et qui après se regrettent cette décision. Donc, en fait, l'action est un mot clé dans la confiance en soi, parce que moi, les gens que je vois, ils manquent de confiance en eux, et donc ils n'agissent pas assez, ils sont bloqués, donc on va les amener à agir, mais à agir de manière réfléchie, tempérée et posée, pas à agir de manière impulsive. Donc, ils garderont un petit peu de doute, mais un doute qui sera adapté à la situation, adapté à ce qu'ils sont en train de vivre, et qui sera pas une réponse à leur voix critique intérieure infantile qui vient leur dire qu'ils sont incapables de...
Donc, il y a un savant dosage, hein, Frédéric Fanget, apparemment, à maîtriser.
Oui. Et surtout une adaptation à ce qu'on est en train de vivre. Hein. Bah, je vous prends un exemple pour être très concret. Une de mes patientes me dit « je fais des attaques de panique dès que mon ami arrive en retard des courses ». Vous voyez, très vite, elle se retrouve en état de panique. Et en fait, je ne veux pas raconter la thérapie qui était un peu longue, mais on s'est rendu compte que elle avait vécu, quand elle était plus jeune, des moments d'attaque de panique quand ses parents, elle avait à peu près 11 ans, étaient allés boire l'apéritif chez des voisins. Elle s'est levée seule dans l'appartement. En plus, elle avait un petit frère, une petite sœur à garder. Elle s'est mise en état d'attaque de panique. Simplement, 20 ans plus tard, quand elle attend son conjoint, elle se rend pas compte que l'angoisse d'abandon qu'elle est en train de vivre en pensant, parce que quand vous cherchez à quoi elle pense quand elle se panique en attendant son conjoint, elle va vous expliquer qu'elle se dit, il va pas revenir, il va m'abandonner. Exactement ce qu'elle s'est dit lorsque ses parents étaient chez les voisins quand première partie fait 11 ans. Mais elle n'a pas conscience de ça. Donc tout l'art, c'est de faire la part des choses entre ce qui est lié à une réalité actuelle, et là le doute a toute sa place, et ce qui est lié à notre passé, à notre inconscient qui vient sans arrêt nous ramener des doutes qui ne sont pas obligatoirement appropriés à la situation actuelle.
Sébastien Boller, surmonter les blocages, guérir donc le manque de confiance en soi en connaissant ses forces et ses faiblesses, ce sont les clés au fond que vous étudiez dans ce dossier de cerveau et psycho. Hein.
Ce sont deux aspects effectivement qu'on a essayé de creuser. D'une part, parce qu'il y a des groupes de recherche qui essaient de savoir concrètement, par exemple dans le milieu de l'entreprise, chez les employés, chez les cadres, quels sont les schémas de pensée qui font que concrètement un membre d'une équipe ne va pas oser prendre en main un projet. Et par exemple, il y a un groupe de recherche en Allemagne qu'on a contacté pour faire un article parce qu'ils sont à la pointe là-dessus, qui expérimentent justement des techniques pour remodeler ces schémas cognitifs, qui expérimentent sur des centaines de personnes en entreprise, et pour voir comment, par exemple, 3 ou 4 mois après, ces schémas cognitifs peuvent être décortiqués et comment les personnes peuvent reprendre confiance en eux. Donc là, on est vraiment sur la localisation de des espèces de pensées qui circulent en boucle, parfois des idées qu'on a sur soi-même sans les avoir mises en question. Voilà. Et comment ensuite les dépasser. Et puis effectivement, vous parliez de connaissance de soi. C'est un deuxième aspect qu'on a abordé avec un professeur à l'université de New York qui est spécialisé dans ce qu'on appelle la métacognition. Oui. C'est-à-dire, on a tous plus ou moins une capacité à regarder en soi pour savoir si, oui ou non, on a plutôt une force dans tel domaine ou plutôt une faiblesse. Mmh. Et quand on a plutôt un point faible, c'est important que cette métacognition, cette capacité d'introspection soit capable de nous dire, attention, là, t'es dans une zone où tu n'es pas très compétent, donc ne te fais pas trop confiance. Ou au contraire, dans tel ouais. autre domaine, avoir bien conscience du fait qu'on est bon dans ce domaine-là et donc se faire confiance à bon escient. Ouais. Donc ça, c'est cet aspect-là très important qui était à la pointe des recherches, y compris au niveau neuroscientifique.
Alors justement, c'est ça, parce que les avancées en neurosciences ont permis de bien comprendre évidemment les différents aspects du cerveau. Et dans le dossier, vous évoquez justement l'aide, l'apport justement de la connaissance du cerveau pour essayer de débloquer les choses.
Voilà, tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que cette capacité de s'évaluer de façon juste, de façon neutre, sans surestimer ni sous-estimer ses capacités, eh ben, c'est une faculté du cerveau qui est à part. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui sont très bons techniquement dans un domaine, mais qui ne s'en rendent pas compte ou qui n'ont pas confiance en eux. Puis d'autres qui sont très mauvais, mais qui sont persuadés qu'ils vont y arriver. Et à la limite, il vaut peut-être mieux ça que le contraire. Donc la capacité à voir clairement ses forces et ses faiblesses, c'est un geste cognitif très particulier, qui est très lié à l'introspection, donc ce qu'on appelle la métacognition. Et ça repose sur des circuits cérébraux bien précis qui commencent à être identifiés. Oui.
Frédéric Fanget, on a des courriels d'auditeurs qui arrivent. Liliane nous envoie ce message. J'ai 56 ans. Durant mon enfance, écrit-elle, j'étais considérée par mes institutrices et mon entourage comme plutôt intelligente et vive. Au collège, il y avait des tests d'intelligence destinés aux élèves. Mon résultat était médiocre et ça m'a complètement bloqué, m'a fait perdre toute confiance en moi. Depuis, j'ai relativisé ce résultat, mais il m'a fallu beaucoup de temps et le mal a été fait. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre, Frédéric Fanget, à Liliane?
Ce que je peux répondre à Liliane, c'est la théorie des intelligences multiples qui montre, les auteurs sont passés à 5 puis à 8, maintenant ils sont à 9, je crois, formes d'intelligence, mais que l'école française n'évalue que 2 formes d'intelligence. Et c'est le cas aussi des tests qu'elle a dû passer, Liliane, lorsqu'elle était enfant. Donc, elle a peut-être eu des scores un peu bas sur 2 des 9 formes d'intelligence. Mais par exemple, je pense que Mozart aurait eu une intelligence synesthésique assez mauvaise. L'intelligence synesthésique, c'est l'intelligence du corps, qui doit être bien meilleure, chez un grand footballeur, par exemple. Mais Mozart avait un cerveau musical hyper développé. Et je suis pas sûr qu'aucun des deux, que ce soit par exemple Benzema ou Mozart, aurait été très très bon en grammaire et en maths à l'école. Et n'aurait pas eu un très bon QI. Parce que le QI, c'est une somme globale des différentes formes d'intelligence. QI, excusez-moi, quotient intellectuel. On ajoute en fait différentes sous-notes qui mesurent chacune quelque chose, mais le résultat global peut masquer des formes d'intelligence très développées, comme je viens d'en citer un ou deux cas, avec d'autres formes d'intelligence qui ne le sont moins. Alors, les formes d'intelligence importantes, peut-être que Liliane les a, qu'on a rajoutées, c'est une dont parlait à l'instant Sébastien avec la recherche new-yorkaise, à savoir l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à s'introspecter. Il y en a une autre qui est très importante pour notre sujet d'aujourd'hui, pour la confiance en soi, c'est l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire c'est comment me comporter avec les autres.
Sébastien Boller, excusez-moi, Frédéric Fanget, oui. Vous voulez continuer?
Non, allez-y, Sébastien.
Alors, oui, Sébastien, non, dans l'édito du magazine, justement, vous écrivez ces quatre premières phrases, c'est dans les moments où la confiance s'effrite que l'on ressent toute son importance.
Oui, parce que c'est là que remontent nos conditionnements inconscients, hein, dont parlait Frédéric Fanget, et c'est très difficile à maîtriser. Donc ces conditionnements, ils peuvent remonter effectivement à l'enfance, ou à des épisodes clés comme celui que mentionnait notre auditrice. On passe un test à un moment.
Oui.
Bon, le test nous livre un verdict qui est effectivement très parcellaire, comme vient de l'indiquer Frédéric Fanget. Mais il reste une date et on a tendance à se reposer sur très peu finalement d'événements dans notre vie pour en tirer des conclusions sur nous-mêmes. Et ça, c'est un gros problème. Hein. Ce que montrent les chercheurs allemands là dont on publie l'article dans le numéro, c'est que on a tendance à hyper généraliser. Il nous arrive un jour, voilà, un test comme ça, et on en déduit pour toujours qu'on n'est pas intelligent ou qu'on n'est pas doué en maths et que pour ça on pourra pas entamer une carrière par exemple de psychologue parce que il faut passer par celle de statistique et que donc on n'ose pas. Alors qu'en fait, le maître mot de ces recherches tendrait plutôt à dire qu'il faut plutôt mettre à jour l'opinion qu'on a de soi-même, c'est-à-dire douter de ses conclusions, c'est-à-dire que si une fois on a eu un avis négatif, se dire que il faut tendre l'oreille à d'autres avis.
Voilà. Et ne pas généraliser à l'ensemble de ce qui nous entoure.
Qu'il y ait d'autres retours. Et après, il y a des méthodes cognitives justement pour arriver à lisser tout ça, à se dire, je vais vraiment faire preuve d'esprit critique sur cette première conclusion que j'ai tirée quand j'avais 8 ans à l'Institut d'un test. Et esprit critique, ça veut dire chercher s'il y a des événements dans ma vie quotidienne qui contredisent cette conclusion. Ou alors au contraire, supposer que je suis bon en maths et voir s'il y a beaucoup de contre-exemples à ça. Et ensuite voir là où il y a le plus de contre-exemples et faire acte finalement de logique, parce que la logique peut aider aussi.
Allez, on y revient dans un instant, notre dossier sur la confiance en soi, juste après PNL et dans La Légende. Vous êtes sur France Inter.
Dans la tour, je me rappelle, les cafards, les bacs, les anglais, à l'appel, à l'appel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Le monde, chico, chico. Y'a le poste tant qu'il est chaud, on va le faire. Amiga, amiga, amigo, amigo. Pas de dix. Au bon char, on y va, on fait pas de caprice. Non. Love and peace. Sur le terrain, y'a tes yeux, et belle glissement. On te rentre dedans, boum, boum, boum. Pas ton temps. Bref, allez, fil. Qu'est-ce que t'as fait le foot test? Zing, 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 zing. Hey, 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 hey. J'sors des mots de merde et tu me payes, pay. La haine sur le maillot, le zay, la maille, j'vois maille, la maille. Le M en saillant, car tu fly, wallah, wallah. J'pense moi ça m'arrange, t'as fait ci, t'as fait ça à l'échange. ADT ou loin des anges. J'vois ma haine sur la balance. J'dois entrer dans la légende. J'vois bien, j'fume, j'revis. Leur fait un charbon et je m'enfuis. Toute l'année je m'en pète. J'en ai savane, la jeune fois du soleil. Voilà, j'ai plus sommeil. Tiens, je te laisse fini de vendre. Bientôt on rentre dans la légende.
Fait que charbon et on s'occupe. Ouais, c'est ça ou finir cocu. La seule inquiétante, nous on reste les mêmes et on bande. Je refais mon corps à son en pépite. Chez nous les chromes c'est comme les fuites.
Le putain de cash.
Je réveille. Le sourire d'un ange me réveille. Balle perdue vers Corbeil. Charbonneur dans la ville. Des billets, je fais des kills. Garde le double des clés, salut, je quitte la terre. Et gonfle la ville. Par le sang du maire. J'emmène la misère, putain de pas. Avec que j'aurai pas le temps d'une barre, je quitte Paname. Personne ment, la mif,
l'argent,
le sang dans la légende.
J'voyage, fume, j'revis. J'rate pas dans leur fait. Un charbon et j'm'enfuis. Toute l'année j'm'en pète. J'ai du soleil. Voilà, j'ai plus sommeil.
légende PNL sur France Inter. Dans la tête au carré, oser se faire confiance. C'est à la une du magazine Cerveau Psycho, titre qui inspire ce dossier cet après-midi avec Sébastien Boller, son rédacteur en chef. Et puis en duplex de Lyon, le psychiatre et psychothérapeute Frédéric Fanget. Justement, peut-être ce message sur Twitter pour vous, Frédéric Fanget, d'Urso Nobo, c'est son nom sur Twitter, qui nous dit ceci: c'est pas facile d'utiliser les intelligences multiples, vous en parliez tout à l'heure, dans des classes de 30 élèves, et pourtant on essaye.
Ah ben c'est bien s'ils essayent, mais je pense que ce qu'on pourrait peut-être faire simplement, c'est évaluer les élèves pour évaluer leurs compétences plutôt que de chercher à leur apprendre des choses. Déjà, il y aurait une démarche à faire, mais c'est vrai que c'est pas l'instituteur avec ses 30 élèves qui peut le faire, ça serait peut-être en amont. Ça serait déjà de savoir ce qu'ils savent très bien faire. Vous savez, on peut interroger les parents, demander ce que le gamin aime faire et dans quoi il se sent compétent. Ouais. Mais je voudrais rebondir, si vous me permettez, Mathieu, sur l'intervention qui me paraît fondamentale de Sébastien sur la généralisation tout à l'heure.
Oui, absolument. Possible. Oui, bien sûr. Oui.
Parce que là, Sébastien Boller, en parlant de cette généralisation, est au centre de l'approche cognitive qui est effectivement, qui va nous permettre à la fois de comprendre notre problème de manque de confiance en nous et de le traiter. C'est ce qu'on appelle une des distorsions cognitives, la généralisation. Je vais vous en citer d'autres. Et je pense que pour les auditeurs, c'est important d'apprendre à repérer ces fameuses distorsions qui sont en gros des filtres de la pensée. C'est-à-dire, c'est un peu des logiciels qui traitent mal l'information de l'environnement et qui vont nous conforter dans ce qu'on pense de nous. Alors, il y a un petit acronyme pour retenir, c'est le GRIMPA, G-R-I-M-P-A. Alors, je commence par le G, c'est justement la généralisation. C'est-à-dire, au lieu de se dire, face à un échec, par exemple, effectivement, à l'école, la première fois que vous passez au tableau, vous paniquez un peu, vous n'êtes pas bien, vous avez le trou, j'ai fait une chose nulle ou je ne suis pas arrivé à ce moment-là, quelqu'un qui généralise va se dire « je suis nul », déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de taxer son comportement, ce qu'il a fait, comme nul, il va se taxer lui-même comme personne. Et puis, il va aller plus loin. Il va faire une généralisation plus globale, en particulier une généralisation temporelle, qui va dire, de toute façon, j'ai toujours été nul et je serai toujours nul dans ce domaine. Et puis, il va aller encore plus loin. Il va dire, de toute façon, je ne suis pas nul que pour ça, je suis nul pour tout. Et c'est quand ces mécanismes-là entrent en jeu que les gens, effectivement, vont se retrouver avec des sérieuses conséquences de leur manque de confiance en soi. Alors, rapidement, pour citer, mais je les développe, bien sûr, dans mon livre sur la thérapie de la confiance en soi, les autres mécanismes, le R, le I, le M, le P et le A. Le R, ça veut dire un raisonnement dichotomique. C'est important, c'est ce qu'on appelle le tout ou rien. C'est-à-dire, c'est où je réussis, où j'échoue, par exemple. Il n'y a pas de nuance. Donc, très vite, les gens se retrouvent dans des échecs, alors qu'ils n'ont pas plus échoué que d'autres, mais simplement, ils ont traité l'information comme ça. Le I de Grimpa, comme Grimpa la montagne, ça veut dire inférence arbitraire. C'est-à-dire, c'est une déduction sans preuve. Je vais déduire que je ne suis pas bon alors que j'ai aucune preuve. On appelle ça aussi le raisonnement émotionnel, c'est-à-dire des gens qui se font une impression sur eux-mêmes sans aller chercher des faits. Ce qui fait qu'en thérapie, d'ailleurs, moi je vais leur dire, je veux bien, souvent, vous savez, dans les thérapies de groupe, je mets sur le trône le ou la reine des nuls, mais il n'y a qu'une place sur mon trône, alors qu'il y a 10 personnes dans la thérapie de groupe, et je leur dis tous, parce qu'ils sont tous persuadés d'être le roi ou la reine des nuls, je leur dis, moi je veux bien croire que c'est vous le roi ou la reine, mais il faut me le démontrer.
Ouais.
Il faut que vous m'apportiez des arguments. Voilà. Comme un avocat de la défense va apporter des arguments. Le M, ça veut dire maximaliser le négatif et minimaliser le positif. Alors, Sébastien l'a évoqué aussi ça tout à l'heure, je crois, c'est-à-dire qu'on va augmenter le poids de nos échecs et on va diminuer tout ce qu'on fait de bien. C'est très important chez ces personnes de leur apprendre de voir ce qu'ils font de bien dans l'instant et puis des bilans de vie positifs, j'appelle ça, justement, je les renvoie à leur carnet scolaire, à discuter avec des gens qui les ont connus pour voir tout ce qu'ils ont réussi. Le P, ça veut dire personnalisation. Si dans une soirée, je vois deux gars, deux invités à l'autre bout de la table rigoler, je vais penser qu'il se rit de moi. Ça veut dire que je rapporte à moi, j'interprète contre moi. Et le A, c'est abstraction sélective. Ça veut dire qu'on tire une conclusion générale d'un détail. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai un cas de sup qui vient, qui me dit que ça a été catastrophique, ma conférence. J'avais 42 diapos. Et bien, à la 41e, il y avait une faute d'orthographe. Ça n'est pas pardonnable.
Ah oui, donc à la 41e, ça a tout gâché. Michel nous dit...
Ça a tout gâché.
Ouais, ayant un problème de confiance.
Donc là, nous avons des leviers ensuite pour modifier tout ça. Corriger tout ça et du coup faire que les gens n'alimenteront plus. Parce qu'il faut arrêter, c'est comme le robinet de la baignoire, il faut arrêter l'eau, arrêter le robinet du manque de confiance en soi pour reprendre confiance en soi. Il faut d'abord arrêter de perdre confiance.
Alors ce message de Michel, Sébastien Boller qui nous dit ceci, ayant un problème de confiance en moi depuis très longtemps, j'ai fini par m'apercevoir que la source de toutes les difficultés était le fait de tenter de masquer justement ce manque de confiance comme si c'était une tare et petit à petit j'ai accepté cette fragilité en allant dans les groupes de parole et les choses se sont inversées.
Oui, ben ça c'est le gros problème aussi de
de ce qu'on appelle la pression de performance aujourd'hui. C'est que on vit dans une société où il faut avoir confiance, il faut arriver à montrer un visage à la fois rassurant, rassuré. Quand on doute un peu trop longtemps, on perd l'écoute d'autrui. Alors quand on travaille dans les médias, il faut être encore plus sûr de soi. Enfin, souvent, il faut aussi remplir l'espace. Il faut avoir un peu d'extraversion aussi. C'est bien vu. Il n'y a pas beaucoup de place pour le doute finalement dans les rapports professionnels. Et ça fait partie des pressions sociales. Voilà. Donc, ce que nous dit cet auditeur, et c'est un point critique de l'évolution, je crois, de chacun sur ce plan-là. Il y a un moment où il faut accepter que cette pression, on l'a trop longtemps subie, et que finalement les doutes, comme le dit Frédéric Franget, c'est un signe de santé mentale, justement du fait qu'on fait fonctionner le cortex et pas seulement l'émotionnel, et que c'est ça qui va permettre peut-être de fonder une confiance qui est plus rationnelle, qui repose sur quelque chose de solide et pas seulement sur un côté rentre-dedans.
Quelle distinction on fait entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi?
C'est compliqué. Ouais, ça c'est la pyramide de la personnalité que développe Frédéric Franget. Mais il en parle très bien justement dans l'interview qu'il nous a accordée. Hein. L'estime de soi. La confiance de soi, hein, Frédéric Franget le confirmera. C'est peut-être ce qui est de moins bien défini scientifiquement. Puisque lui travaille à la fois sur des thérapies d'affirmation de soi, qui c'est très comportemental. La façon d'arriver à gérer son comportement, à entrer dans une pièce, à saluer, à savoir poser des limites, à dire non, à négocier un salaire. Voilà. Et puis l'estime de soi, quelque chose de beaucoup plus profond, qui plonge des racines dans beaucoup de choses très anciennes.
Ouais, Frédéric Franget, alors on ne va pas tout détailler évidemment, mais les nuances sur ces trois termes.
Ah, je vais aller vite, Mathieu. L'affirmation de soi, ce sont nos compétences relationnelles. Comment je me comporte avec les autres? Effectivement, ça se traite par thérapie comportementale. C'est assez rapide et rapidement efficace. La confiance en soi, ce sont mes compétences personnelles. Est-ce que je me sens en confiance pour faire telle ou telle action? Est-ce que je me sens en confiance dans mon travail? Est-ce que je me sens un bon bricoleur? Est-ce que je me sens bon en vélo le dimanche? Est-ce que je me sens bon dans mon rapport de couple? Est-ce que je me sens bon avec mes enfants? Et l'estime de soi, on descend à la base de la pyramide, c'est une vision globale de nous-mêmes, c'est une évaluation qu'on a dans nous-mêmes. On peut juste aller vite en disant qu'il y a trois formes d'estime de soi. L'estime de soi liée à l'approbation des autres, c'est-à-dire je m'aime lorsqu'on m'aime. L'estime de soi liée à la performance, c'est-à-dire je m'aime lorsque je fais des choses bien. Et l'estime de soi inconditionnelle, alors celle-là elle est géniale, c'est quand vous levez le matin, Mathieu, même si vous êtes en échec et même si vous êtes trahi par vos meilleurs amis, vous vous accordez encore une certaine valeur à vous-même.
Alors ça c'est alors, fort, on voit bien, on en rêve tous,
c'est fort,
on en rêve.
On en rêve. Et on voit bien, effectivement. Alors là, on est descendu à la pyramide. Et du coup, au niveau des thérapies, effectivement, ça change un peu. Et là, on fait ce qu'on appelle les thérapies cognitives, que j'ai déjà évoquées lors de mon intervention précédente, pour modifier ces filtres de pensée. Et puis, alors, on peut aller encore plus loin pour rejoindre le témoignage de Michel. C'est très important ce qu'il dit quand il dit masquer le trouble. Parce que moi, c'est le premier problème que j'ai avec les patients. Et Sébastien parlait fort justement du doute. Et j'ajouterais une autre chose qui est la honte. Parce que on parle souvent des peurs et de l'anxiété dans ces problèmes de confiance en soi, en particulier de l'anxiété sociale, et on ne dit pas assez qu'il y a une émotion qui est fondamentale, qui est la honte. La honte, par définition, elle se situe par rapport à l'autre. On ne peut pas avoir honte tout seul. On a honte par rapport à l'autre. Et un des grands axes de la thérapie de l'estime de soi, cette fois-ci, qui est effectivement une thérapie plus approfondie, avec des méthodes cognitives sur les schémas de pensée infantiles, etc., c'est une méthode qui va nous permettre non pas de surpasser la honte, parce que je crois qu'il ne faut pas la surpasser, il faut l'accepter. Mot qu'a employé Michel aussi tout à l'heure, qui me paraît très important. C'est le jour où on accepte d'avoir honte et d'être vu en position de honte ou d'humiliation qu'on résout ces problèmes, parce que souvent, effectivement, là aussi ça a été soulevé tout à l'heure, on retrouve des humiliations dans le passé infantile de ces gens. Donc la honte est vraiment quelque chose sur laquelle on va faire travailler. Il a bien raison, Michel, de dire que le premier problème, c'est d'arrêter de se cacher, d'accéder à une certaine authenticité, parce que ça, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des gens qui vont vous accepter tel que vous êtes, avec votre manque de confiance en vous, et ça va vous libérer complètement dans vos rapports aux autres.
Sébastien, ce message de Jean-Paul, est-ce qu'on n'a pas tendance, écrit-il, à privilégier les domaines où on se sent fort et à délaisser là où on est faible, au lieu de négliger nos faiblesses? Est-ce qu'il ne faudrait pas les améliorer si on veut justement avoir confiance en soi? C'est intéressant, ça.
Déjà, il faut les repérer. Il faut repérer les faiblesses et arriver à accepter, comme on le disait tout à l'heure, qu'elles soient susceptibles d'évolution. C'est-à-dire ne pas succomber au biais de généralisation, se dire, voilà, effectivement, je suis pas très bon dans ce domaine, mais peut-être que je peux m'améliorer. Et après, il va s'agir de voir si c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire. C'est-à-dire que si c'est une faiblesse vraiment qui vous bloque dans toute votre évolution dans les autres domaines, là, il va falloir effectivement agir. Si c'est simplement une faiblesse qui n'a pas d'impact sur le reste des autres compartiments de votre vie, vous pouvez très bien accepter de vivre avec cette faiblesse.
Allez, on se retrouve dans un instant et beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Et la suite de notre Tête au carré sur France Inter.
La tête.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
Au carré.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Sur France Inter.
Excellente transition pour parler justement de la confiance en soi avec Cerveau et Psycho, Sébastien Boller avec moi en studio à Paris et puis à Lyon, Frédéric Fanget. Sébastien, justement, que nous enseignent les neurosciences aujourd'hui à ce sujet-là, sur la plasticité cérébrale? On peut justement réorienter les choses pour avoir plus de confiance en soi?
Déjà, on a découvert une zone cérébrale.
Dédié à la confiance?
Ben, pratiquement.
C'est vrai.
C'est la zone de la cérébrale qui nous donne ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la métacognition. C'est-à-dire cette capacité, à un moment donné, à estimer sa propre fiabilité. C'est-à-dire que vous pouvez faire un test, par exemple, en laboratoire. On vous montre, par exemple, des cercles qui contiennent plus ou moins de points lumineux à l'intérieur. Vous devez très vite dire lequel cercle contient le plus de points lumineux. Vous allez avoir une performance visuelle de dénombrement qui est votre niveau de performance technique sur ce sujet. Et ensuite, on peut vous demander, à votre avis, est-ce que vous vous êtes trompé ou est-ce que vous avez réussi? À combien est-ce que vous estimez vos chances? Et là, c'est votre capacité à juger vous-même, votre degré de confiance en vous qui va intervenir. Et on s'aperçoit dans ces expériences que la compétence technique et le jugement sur soi sont des qualités entièrement disjointes. Ça n'a rien à voir. Et justement, en creusant plus davantage, notamment auprès de patients cérébro-lésés, on s'est aperçu qu'une partie de l'avant du front, qu'on appelle le cortex préfrontal antérieur, est le siège vraiment de cette capacité. Si elle est abîmée, pour avoir des gens qui sont très très bons justement dans des tests comme ça, n'importe quel autre test, mais qui vont dire non, j'ai tout raté. Ou d'autres qui ont tout raté, qui vous disent non, pas de problème, les doigts dans le nez. Il y a une déconnexion entre ce que vous savez faire et votre capacité à juger ce que vous savez faire.
Vous dites à un moment qu'on a plus de matière grise, c'est ça, quand on a plus de confiance en soi? Enfin, ça se voit physiologiquement dans le cerveau?
Alors, l'IRM anatomique, effectivement, a permis de voir qu'il y a plus de matière grise dans le cortex préfrontal antérieur quand vous avez une bonne capacité de juger vos propres performances. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi des connexions, ce qu'on appelle les fibres de substance blanche, vers d'autres zones cérébrales qui sont plus développées. Et aussi une activation fonctionnelle, donc en IRM fonctionnel, qui est supérieure. Donc ça a permis vraiment aux chercheurs de se dire que cette capacité-là, c'est quelque chose en soi. C'est pas juste un à côté du fonctionnement cérébral. C'est comme quelque chose, une petite lampe que vous pouvez projeter sur vous-même pour avoir une juste vision de vous-même. Et c'est un peu distinct de la confiance en soi, puisque c'est plutôt l'appréciation de soi, la juste appréciation de soi. Mais c'est quand même peut-être même plus intéressant, parce que il s'agit pas d'avoir aveuglément confiance en soi, il s'agit plutôt d'être lucide, je crois. C'est peut-être le point de départ d'une bonne confiance en soi.
Extrait du film de Robert Redford, et au milieu coule une rivière.
Mais la clé démarre.
Celle-là?
La pédale de droite pour accélérer, et l'autre pour freiner.
Je crois pas que j'y arriverai avec ma jambe.
Il n'y a qu'une chose à faire pour le savoir. Mets la manette sur D. Bien, appuie sur la pédale. Tu vois que tu y arrives. Il s'agit seulement d'apprendre à doser. Allez, recommence. Voilà. Bien. Très bien, Grace. Tu vois le chemin qui prend à gauche? Tu le suis. Ah, tout droit. C'est pas compliqué. Allez, je ferme un peu les yeux si ça t'ennuie pas. Continue comme ça jusqu'à la fin de la route.
Mais... je sais pas conduire.
Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu conduis?
Voilà, ce film de Robert Redford pour illustrer notre sujet sur la confiance en soi. Frédéric Franger, c'est intéressant ce qu'on entend, parce que là, au sens propre comme au sens figuré, le copilote de la confiance en soi, il est absolument essentiel, hein.
Oui, en thérapie, on utilise des fois la technique du binôme, c'est-à-dire on dit aux gens, on leur donne des exercices comme aller demander le menu dans un restaurant, en consultant simplement le menu et en ressortant sans s'asseoir à table. Bon, c'est pas très facile pour quelqu'un qui a pas confiance en soi. Et si vous avez un copain ou une copine qui est très à l'aise, vous pouvez vous mettre derrière lui, il va vous le faire quelques fois dans différents restaurants, elle est pas toujours chez le même, parce que vous savez, moi, le restaurant qui est en bas de mon cabinet commence à m'en vouloir avec les exercices.
J'imagine.
Mais au bout d'un moment, petit à petit, vous allez faire ce qu'on appelle une imitation de modèle, qui est quelque chose de très, très important, c'est-à-dire que vous allez imiter le modèle affirmé de votre collègue, et petit à petit, c'est vous qui allez finir par rentrer, demander la carte en premier, et vous aurez appris quelque chose, appris à le faire.
Anne demande sur franceinter.fr, comment se fait-il qu'on est plus doué pour aider les autres à prendre confiance en eux que pour soi-même? Frédéric Franger.
Ça, c'est très très vrai, et d'ailleurs dans les derniers développements que j'ai fait sur la thérapie de la confiance en soi, c'est vraiment par devenir le meilleur ami de soi-même qui est mon slogan, c'est-à-dire que lutter contre cette voix critique intérieure qui nous envahit, qui nous fait douter de manière excessive de nous à cause des mécanismes cognitifs qu'on a vu tout à l'heure, et du coup on a des techniques qu'on utilise en approche cognitive. On pourrait dire à Anne, par exemple, lorsqu'elle doute d'elle-même, de se parler à elle-même comme elle parlerait à sa meilleure amie. Et en lui disant, si votre meilleur ami venait de faire ce qui venait de faire ce que vous venez de faire ou venait de vivre ce que vous venez de vivre, comment vous la consoleriez, comment vous lui parleriez?
Bon, ben voilà quelques travaux pratiques. Merci beaucoup Frédéric Fanget. Ludovic écrit ceci, Sébastien, je vous écoute depuis Taïwan, on le salue. Je réalise tout d'un coup que les Taïwanais paraissent avoir une confiance en soi solide. Je pense que c'est peut-être lié à leur culture de ne pas perdre la face, mais cette confiance en soi n'est peut-être qu'apparente et le manque de confiance en soi, en tout cas, ne se voit pas.
Ah, alors là,
la culture de la confiance en soi.
Sur les différences culturelles, c'est vrai que alors là, c'est tout un domaine de recherche, mais ça me fait penser, mais par rebond, on parle de l'Orient, des techniques de méditation.
Ouais, vous en parlez.
Savez, oui, parce que vous savez, cette zone du cerveau là, dont je vous parlais, quand on entend ça, on peut se dire qu'on est né comme ça, que c'est génétique. En fait, on ne sait pas du tout. Vous savez, le cerveau est plastique, donc si vous vous habituez à essayer de, non seulement de faire les choses bien, mais d'enregistrer si vous avez bien fait tel jour, pour vous souvenir dans quel domaine vous êtes bon, là où vous êtes moins assuré. Vous avez musclé justement cette faculté de mise à jour de vos propres connaissances, de prise de conscience.
Vous dites qu'en 15 jours de méditation, alors, on est capable de retrouver confiance en soi.
Oui, alors il y a effectivement des études épidémiologiques qui montrent ça, des programmes de méditation. Alors il y a des différentes durées, mais effectivement là c'était 15 jours. Il y a des progrès, mais ça se comprend parce que la méditation c'est un exercice sur l'attention. Arriver à fixer son attention sur plein de choses, sur les sensations du corps, sur les déplacements de la pensée, et finalement c'est un exercice d'introspection. Donc vous faites énormément fonctionner cette partie-là de votre cerveau, et vous apprenez finalement à savoir un peu mieux comment vos compétences évoluent, comment vos émotions vous paralysent, à les désamorcer, à les mettre à jour. Donc ça va très bien ensemble.
Allez Frédéric Fanget, pour terminer, il nous reste une petite minute pour réagir sur ce message de Taïwan, je crois.
Sur Taïwan, moi je peux quand même dire à l'auditeur que mon livre Affirmez-vous a été acheté par les Coréens, les Chinois et même les Japonais.
Alors, donc ils ont besoin de clés aussi.
Ils ont besoin de clés, ont demandé une petite adaptation par rapport à leur culture.
Ah, quand même.
Voilà ce qu'on peut lui répondre.
Quel type d'adaptation?
Donc, ça
alors,
doit quand même exister là-bas aussi.
Oui, mais quel type d'adaptation, justement?
Ah, ça, comme c'est fait en japonais, je ne peux pas vous dire, Mathieu.
D'accord.
J'ai pas lu la traduction des adaptations. Ils l'ont adapté à leur culture, mais ça veut quand même dire, si tous ces pays ont acheté le livre, que quand même, ils ont des problèmes d'affirmation de soi importants chez eux.
Irène nous écrit « Mon manque de confiance en moi fait surface vers l'âge de 24-25 ans. Il m'empêche aujourd'hui de choisir ma voie professionnelle, car je ne me sens pas capable d'assumer certaines responsabilités. Aujourd'hui, je sais d'où ça vient, dit-elle, toute mon adolescence, ma mère m'a comparé à ma grande sœur. Aujourd'hui, à 30 ans, ça me bloque toujours beaucoup dans ma vie. » Qu'est-ce qu'on peut dire Irène, pour conclure cette émission, Sébastien, très vite.
Qu'elle a fait le plus important, c'est qu'elle a compris ça.
Ouais. Frédéric Fanget, un petit mot pour la fin.
On peut lui conseiller de changer avec les techniques qu'on développe en approche cognitive, et je pense qu'elle devrait pouvoir y arriver.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ce numéro de Cerveau et Psycho, donc consacré à la confiance, oser se faire confiance et comment notre cerveau dépasse ses blocages. Et puis Frédéric Fanget, ce livre « Oser, thérapie de la confiance en soi » qui est sorti en poche chez Odile Jacob. Merci beaucoup à tous les deux et merci aux équipes de Lyon. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles avec vous.
Aujourd'hui, la mystérieuse disparition de Philippe de Dieuleveux. Il a disparu. On sait jamais ce qui s'est, on n'a jamais su ce qui s'était passé réellement. C'est un peu comme Alain Colas et Manoureva. C'était le 6 août 1985.
En Afrique,
en Afrique, au Zaïre. Et dans le fleuve Zaïre, probablement. Bon, on n'est pas certain. Nous en parlerons avec notre invité, évidemment, qui est Colette Breckmann, journaliste spécialiste de l'Afrique centrale. Elle a enquêté sur cette affaire.
À tout à l'heure.